Texte intégral, bonjour. Les Grâces, cherchant un sanctuaire qui ne dut pas périr, trouvèrent l'âme d'Aristophane. Le compliment viendrait de Platon. Lui, le disciple d'un Socrate lourdement étrié, de comédie en comédie, il reconnaît pourtant le génie éternel d'Aristophane. Et pour cause, pendant presque 40 ans, Aristophane a fait rire Athènes. Athènes la sérieuse, Athènes la guerrière, Athènes où s'inventaient la démocratie et la philosophie, Athènes s'esclaffait au calembour salace d'Aristophane. Verge brandie, cul palpé, jeu de mots douteux, le rire grec est gras. Mais Aristophane n'aurait sans doute pas triomphé dans autant de concours, s'il n'avait flatté que le bas. Chacune de ses pièces est aussi une satire sociale d'une finesse acérée, la guerre, les démagogues, la manie des procès, la nouveauté. Aristophane fustige à tout va et dans tous les sens. Il raille les puissants mais se moque tout autant du peuple. Il trouve tous les défauts aux femmes mais en trouve plus encore aux hommes. Peu importe la contradiction, tout ce qui fait rire est bon. Et ce qui fait rire, ce sont les travers de ces Athéniens du 5e siècle avant Jésus-Christ. La lecture d'Aristophane les fait revivre. Celui qui n'arrive plus à éduquer son fils, celui qui veut mettre fin à la guerre, celui qui peut pas se passer d'amour. Tous, ils ressurgissent dans chacune de ses comédies. Alors ce matin, c'est au détour d'une de ses comédies que nous allons parler d'Aristophane. Cette comédie, c'est Lysistrata. Elle vient de faire l'objet d'une nouvelle traduction aux éditions Arléa. Laetitia Bianchi et Raphaël Metz, qui ont co-signé cette traduction, seront sur notre plateau. Et puis aux alentours de 9h40, c'est vers Rome que nous emmènera Véronique Varallo. Le théâtre romain n'est-il qu'un épigone du théâtre grec? Elle est allée poser la question à Florence Dupont. Et enfin, comme chaque semaine dans Texte intégral, nous recevons un libraire pour ses choix de lecture. Aujourd'hui, c'est une libraire, Michel Ferradou, de la terrasse de Gutenberg à Paris. Mais avant, plongeons ensemble dans Aristophane, dans une adaptation que Robert Merle avait écrite pour la radio en 1975. C'est Lysistrata, on est à Athènes, en pleine guerre du Péloponnèse, les femmes sont lasses de cette guerre et elles ont trouvé le moyen d'y mettre fin.
Écoutez, hommes, tant que vous n'aurez pas chassé le sycophante,
tant que vous n'aurez pas chassé le sycophante,
tant que vous n'aurez pas accepté notre loi,
tant que vous n'aurez pas accepté notre loi,
nous, femmes d'Athènes, les armes à la main, jurons devant les dieux le serment solennel que voici. Aucun homme ici-bas, ou mari ou amant,
aucun homme ici-bas, ou mari ou amant,
n'approchera de moi tout gonflé de désir.
Oh, c'est trop dur, Pythagore.
Répète.
N'approchera de moi tout gonflé de désir.
On ne me verra pas à ses vœux obéir.
On ne me verra pas à ses vœux obéir.
Hélas.
Si mon mari me force avec brutalité.
Oh, par Zeus, pourvu qu'il y songe.
Répète.
Si mon mari me force avec brutalité,
à ses assauts je saurai résister. Et s'il arrive à consommer ma perte, dans ses bras jusqu'au bout je resterai inerte.
Si je peux.
Oh Athénien, oh Métèque, oh barbare, oh alliés, oh vous tous, hommes qui siégez ici. Quelle n'est pas votre infortune? Et sans femme, qu'allons-nous devenir, vous et moi?
Bonjour Laetitia Bianchi, bonjour Raphaël Metz. Vous venez d'entendre comme nous cette archive de l'INA qui a été ressortie par Catherine Donnet. C'est une libre adaptation de Robert Merle qui mélange deux pièces d'Aristophane, l'Assemblée des Femmes et Lysistrata. Alors ce passage de Lysistrata, vous l'avez pas traduit avec autant de circonlocution, hein, puisque le gonflé de désir de Robert Merle devient dans votre traduction en érection. Hein. Et c'est ça dont avait besoin Aristophane, c'est d'être un peu rajeuni, un petit peu durci pour l'exprimer clairement.
Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de traduction juste normale en fait de Aristophane. C'est-à-dire que on l'a entendu dans le texte, et on a le sentiment qu'il y a un côté un peu vieillot, un peu Bon, c'est aussi un effet de mise en scène, mais c'est vrai que il n'y avait pas de rendu dans un texte écrit du fait que on pouvait à la fois faire des blagues comme Aristophane les faisait sans aucune retenue. C'est vrai qu'il n'y a aucune retenue par rapport à ça. Et bon, le mot érection, c'est vraiment rien à côté de ce qu'il peut y avoir dans la pièce. Mais qu'à côté, il n'y avait pas de raison d'être gêné, de cacher les choses. Et donc, il y a toute une série de traductions qui ont essayé beaucoup de biais pour ne pas assumer ça. Donc, ce qu'on cite dans notre préface, parce que la traduction la plus drôle, c'est celle de 1927. Donc aux belles lettres, qui est la traduction où en fait tout se joue en notes de bas de page, mais de façon extrêmement perverse, puisque les jeux de mots en grec sont traduits en latin. Donc ça renvoie, alors on voit des mots encore plus compliqués, encore plus bizarres, qui du coup prennent un sens vraiment vraiment limite. Et donc bon, c'est une traduction qui restait en effet pas accessible pour les jeunes étudiants à qui donc on voulait cacher les
l'obscénité.
Voilà. Et donc et puis ensuite il y a eu toute une vague de traductions dans les années 60 qui était elle qui pouvait peut-être assumer plus le côté pervers, mais en restant très gênée. Ah mais c'est licencieux, oui c'est un peu scabreux, mais bon c'était comme ça à l'époque, vous comprenez. Donc du coup les blagues sont plus ou moins assumées, mais notamment une traduction dont on reparlera, je pense, qui est celle de Debidour, qui du coup a tendance à en faire un peu trop, à en rajouter, disons, dans le côté un peu burlesque, et c'était pas non plus ce qui avait de plus intéressant à notre avis. Donc finalement nous on s'est dit bon, mais on prend le texte, on regarde ce qui est dit, et puis on le traduit comme aujourd'hui on pourrait parler et se faire ce genre de réflexion et ce genre de blagues sans être ni gêné ni non plus vouloir en rajouter dans le grotesque.
Parce que c'est une part extrêmement importante des pièces d'art. Aristophane, ce côté inventif et puis obscène de la langue, Laetitia Bianchi.
Oui, tout à fait. C'est toute la notion de jeu de mots, de calembour est vraiment fondamentale. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Aristophane a pu être un peu est un peu méconnu en partie parce qu'il est réduit à sa seule part grossière, alors qu'il y a beaucoup de finesse derrière la réflexion.
Non, mais il est méconnu aussi parce qu'il n'est pas forcément non plus. Il n'était pas forcément traduit justement. C'est-à-dire voilà. Que à force de parler de ah, est-ce qu'on traduit les blagues, comment est-ce qu'on traduit, est-ce qu'on met le mot bite, est-ce qu'on met pas le mot bite, puisqu'en gros c'était ça le débat. Mm-hmm. À force de tourner autour de ça, c'est vrai qu'on a aussi un peu tendance à cacher le fait que derrière ce burlesque, il y a un vrai personnage, enfin un vrai écrivain, un vrai auteur, et ça c'est un peu dommage.
Et c'est uniquement des questions de traduction qui vous ont poussé à vous attaquer à Lysistrata? Parce que on se pose la question.
Non, c'est en effet aussi l'inventivité de des idées d'Aristophane. C'est vrai que cette idée en pleine guerre du Péloponnèse de que les femmes donc fassent la grève du sexe pour arrêter la guerre, c'est très moderne comme idée. Donc bon, Aristophane dans ses pièces a eu mille thématiques qui sont très originales et extrêmement drôles. Et c'est vrai que là ça peut justement Ça peut étonner tout d'un coup alors il a fait à deux reprises, enfin même à trois reprises dans l'Assemblée des femmes où les femmes prennent le pouvoir et instaurent le communisme, on dirait avec de façon un peu anachronique, mais c'est vraiment ça puisqu'elles décident de tout partager et mettent en place une nouvelle façon de gouverner. Donc ça dans l'Assemblée des femmes, dans les Thesmophories, elles font le procès de Ripide parce que alors bon, il faut ça
mais on y reviendra peut-être un peu plus tard sur la question du rapport avec Ripide qui est extrêmement complexe.
Et donc ces trois pièces et dans Lysistrata, donc les femmes pareil se rassemblent, donc on a leur point de vue pour arrêter la guerre. Donc c'est une manière très moderne d'envisager la question puisque c'est elles disent puisque nous on souffre doublement en tant que mère et en tant que femme, on va résoudre le conflit à notre façon.
Mais pour bien comprendre la modernité ou en tout cas ce que Aristophane apporte au débat à Athènes, c'est intéressant de savoir un peu ce que c'est que cette Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ.
Alors en fait donc Lysistrata ça date de 411 avant Jésus-Christ. Et pour bien se rendre compte en effet de la façon dont se situe cette comédie, il faut voir que Athènes en fait a connu une très longue guerre qui est la guerre du Péloponnèse qui commence en 431 avant Jésus-Christ, donc 20 ans avant la représentation de la pièce, et qui s'achèvera en 404 par l'effondrement d'Athènes. Et en fait, Aristophane est directement contemporain de cette perte de puissance d'Athènes et surtout de la durée d'une guerre qui s'essouffle. Enfin, 30 ans, c'est extrêmement long.
Je pense que ça, c'est important, il faut insister dessus, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point... Je coupe parfois la parole, mais ça ne dure jamais trop. À quel point cet écrivain, cet auteur, est en effet un auteur de comédie, mais dans une période, elle, qui en effet, du côté du tragique, c'est-à-dire qu'il faut imaginer une guerre qui dure 30 ans, avec des rebondissements, parfois on croit que ça y est, c'est la paix, et puis ça rechute, et qui finit quand même par, en effet, l'effondrement d'Athènes. Donc c'est une période qui est quand même très très sombre, et du coup c'est d'autant plus intéressant de voir que Aristophane, lui, gardait cette espèce de joie et de force par ses comédies. Du coup.
Oui, donc toutes ces pièces sont un peu des pieds de nez à ça. Puisque Lysistrata finit par la paix. En effet, il faut dire on a que 11 pièces d'Aristophane, il en a écrit une quarantaine. Mais donc sur celles qu'on a, ses comédies les plus connues comme Les Oiseaux, Lysistrata, à chaque fois c'est la paix triomphe. En gros, c'est son, et on sait qu'Aristophane lui-même était plutôt engagé politiquement et du côté des partisans de la paix. Alors, ce qui, par ailleurs, peut paraître contradictoire avec le fait que dans les commentateurs actuels ont souvent dit qu'il était réactionnaire, plutôt...
C'est ça, parce qu'en fait, dans cette Athènes du 5e siècle, si politiquement, deux grands partis, c'est ça, c'est-à-dire un parti populiste, démagogue et belliciste, représenté par Cléon, dont on reparlera, et puis un parti oligarchique, le parti des cavaliers.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que avant que débute la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes, il y a eu Périclès, et donc qui est synonyme de la splendeur d'Athènes, sa puissance politique, etc. Et donc Aristophane est nostalgique, mais comme beaucoup de gens de d'Athènes vers 411, quoi, c'est-à-dire qu'il regrette en gros cette splendeur, le rayonnement d'Athènes, et donc d'où ce côté un peu tout fout le camp qui va revenir. C'est pour ça, entre autres, qu'il peut avoir tendance à tout mélanger un peu pêle-mêle sur les, il s'en prend au procès, aux magouilles, en effet aux hommes politiques, mais donc aussi aux sophistes, donc à Socrate qu'il a comparé à un sophiste, et c'est ça qu'on lui reproche. En gros, le 20e siècle lui a reproché le fait de pas avoir compris Socrate, dont il se moque beaucoup dans une pièce qui s'appelle Les Nuées, où on voit un jeune étudiant qui part de chez son père pour aller étudier auprès de Socrate, qui revient et qui brûle sa maison. En gros, il ne respecte pas les traditions, les anciens. Donc ça lui a été très reproché, ainsi que le fait de pas avoir compris Euripide, dont il se moque beaucoup. Mais bon, sur Euripide, c'est quand même beaucoup plus discutable, parce que c'est comme sur les femmes, il a quand même finalement pas mal de tendresse envers Euripide, parce qu'à force de le parodier, il aime peut-être ce qu'il parodie.
Mais c'est ça qui est toujours très compliqué chez Aristophane, c'est qu'on a du mal à décider finalement ce qu'il déteste, ce qu'il aime.
Oui.
Vous parlez des femmes, effectivement, c'est assez compliqué, parce qu'en même temps, il veut leur donner le pouvoir, il les fait le porte-parole de ses utopies, hein, les femmes, et en même temps, alors, elles sont support de tous les jeux de mots les plus obscènes qui sont possibles, et elles sont cantonnées quand même dans un rôle qui est, lui, assez peu moderne, rappelle-moi.
Oui, mais je pense que c'est vraiment l'intérêt d'Aristophane. C'est pas pour rien que 2500 ans après, on le lit et qu'on le relit avec un tel plaisir. C'est que il y a une finesse extrême. Enfin, nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment à la fois amusé, intéressé dans la traduction, c'est-à-dire de se rendre compte que finalement, à chaque fois, à chaque coup qu'il va donner contre ou pour, il va toujours y avoir le contre-coup, puis le sur-contre-coup. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très étonnant, très riche et de surtout pas du tout manichéen, alors qu'on pourrait avoir l'impression que ce sont des pièces un peu faciles. Ah, la paix c'est super, le communisme c'est super, mais en fait pas du tout. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. Et par exemple, c'est vrai que sur les femmes, le jeu est c'est-à-dire que c'est vrai que certains ont dit Aristophane est très misogyne, parce qu'il vraiment il se permet de dire pique vent sur les femmes, et en même temps c'est pas pour rien que c'est elle qui, en effet, est dans Lysistrata, parce que du coup, on n'a même pas raconté l'histoire de Lysistrata, mais
allez-y,
c'est vrai qu'en deux mots, donc, pour arrêter la guerre, en fait, Lysistrata, qui est une Athénienne, convoque toutes les femmes grecques, donc les Athéniennes, mais aussi celles qui sont du côté de Sparte et donc qui sont en guerre contre Athènes, et donc toutes ensemble elles décident de Lysistrata les oblige à, parce que les femmes ont pas du tout envie, mais elles décident de mener la grève du sexe, d'arrêter de coucher avec leur mari tant que ceux-ci ne mettront pas fin à la guerre. Et donc ça c'est le début de la pièce, hein, c'est vraiment le prologue. Et puis ensuite on tout au long de la pièce on voit les réactions des hommes et aussi les faiblesses des femmes, puisque les femmes elles-mêmes ont du mal, disons, à tenir leur serment. Et c'est la fameuse scène entre une femme et son mari.
Extraordinaire, cette scène.
Qui nous a beaucoup amusé, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait un film qui l'ennui de Cannes, qui était il y a quelques années, où en fait il rejouait exactement cette scène. Alors je sais pas si c'était volontaire ou pas de sa part, puisque donc en fait la femme repousse en permanence le moment où elle va se donner à son mari, mais tout en lui faisant croire que de fait elle va se donner à lui, et donc le mari insiste. Enfin, il doit donc faire elle va chercher un matelas, elle va chercher du parfum, et donc lui il boude d'impatience, et puis donc il le dit qu'il est en érection et qu'il a besoin de satisfaire ses besoins. Bon, donc toute la tension de cette pièce c'est ça, c'est est-ce que les femmes vont craquer, est-ce que les hommes vont accepter, et puis de fait à la fin c'est super, parce que donc les hommes des deux camps se disent bon bah en effet il vaut mieux qu'on fasse la paix pour pouvoir récupérer nos femmes. Et donc du coup c'est vrai que c'est d'un côté les femmes sont là, elles le disent qu'elles sont préoccupées que par être bien habillées, être bien jolies, coucher avec leur mari, et puis de l'autre côté en effet c'est elles qui ont le courage de prendre les choses en main, d'assumer le rôle politique qu'en fait pour Aristophane les hommes politiques, puisque en effet il y a tout ce combat contre les hommes politiques aussi, c'est-à-dire les hommes politiques ne font pas ce qu'ils devraient faire, ne prennent pas en main disons la situation, et donc c'est les femmes qui vont le faire. Et on peut vraiment pas dire qu'il est misogyne, et on peut vraiment pas non plus dire que c'est une défense des femmes. Donc c'est ça qui est bien.
Laetitia Blanqui.
Oui, notamment en fait à travers les détails des dialogues, puisqu'on est du côté des femmes, c'est vraiment caméra subjective à l'intérieur d'un groupe de femmes, quoi. Et on voit dans plein de détails justement la vie quotidienne des femmes à Athènes, et Aristophane rend hommage à leur importance plusieurs fois dans la pièce quand elle s'empare en fait de l'acropole, donc de la citadelle d'Athènes, pour prendre le pouvoir. Et alors on voit un ministre qui arrive, qui leur dit mais enfin vous des femmes, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire, comment vous allez faire pour gérer les affaires de l'État. Elles disent mais on s'occupe bien de l'argent à la maison. Enfin, on voit dans plein de détails quand même leur importance à Athènes. C'est pareil lorsqu'elles font le procès de Ripide, elles réagissent par rapport quand même à un texte littéraire. Donc il faut pas sous-estimer l'importance de la femme à Athènes, et une pièce les pièces d'Aristophane permettent justement de rendre concrète la réalité de la vie quotidienne. Mais
c'est ça qui est très étonnant et qui est finalement très émouvant à la lecture d'Aristophane, c'est qu'on a vraiment l'impression que ces Athéniens prennent cher, quoi. C'est-à-dire que on les voit vivre, on comprend leur conflit, on comprend leur quotidien. Et j'aimerais vous faire juste entendre un deuxième extrait de cette adaptation de Robert Merle, une sorte de c'est l'Assemblée des femmes là, pièce d'Aristophane, pièce de la fin d'Aristophane. Et on y lit, on y entend un réquisitoire très violent contre cette Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ.
Citoyens, je vous vois sans cesse employer des chefs incapables qui pourrissent les affaires de la cité. Encore serait-il moins mauvais si vous n'en changiez pas si souvent, mais à peine ont-ils le temps d'apprendre leur métier que déjà vous les remplacez.
Ah oui.
D'ailleurs, ces chefs, seraient-ils tous très bons que cela ne changerait rien? Car c'est toi, ô peuple, qui les corromps en désirant des choses contradictoires, en te divisant, en luttant contre toi-même. Ainsi, les riches désirent une chose, les pauvres une autre, les uns tirahus, les autres adia, et l'État marche quinquart.
Admirable. Ah ben voilà ce que j'appelle un homme.
Mais si vous voulez bien m'écouter, ô citoyen, vous pouvez encore sauver la cité. Et voici le moyen. C'est aux femmes, dis-je, qu'il convient d'abandonner le pouvoir dans l'État.
Bravo. Très bien. Oh ben, très bien, mon brave. Quel homme.
Et pourquoi, en effet, ô citoyens, Ne confieriez-vous point aux femmes le gouvernement de la cité, puisque déjà, vous leur confiez celui de vos maisons?
Ah,
ne sont-elles pas vos intendantes, vos économes?
Aphrodite, Praxagora, es-tu bien sûre de n'être pas un homme?
Je ne me sens plus en sûreté avec toi.
Non. Ce qui vous perd, Athénien, c'est la manie qui vous possède d'innover continuellement, de faire sans cesse de nouvelles lois, même quand il n'y a plus lieu de le faire. Eh bien, Partus, avec les femmes, vous n'auriez rien à craindre de ce côté-là.
C'est vrai, absolument.
Mais voyez donc, citoyens, comme elles se tiennent fidèlement aux pratiques du bon vieux temps. Elles portent leur fardeau sur la tête, comme autrefois.
Ouais.
Elles font les grillades, assises auprès du feu, comme autrefois.
Mm-hmm.
Elles célèbrent leurs fêtes, comme autrefois. Elles trempent la laine, comme autrefois. Elles font cuire les gâteaux, comme autrefois.
Elles ont des amants, comme autrefois.
Oh. Non. Ainsi donc, ô homme, confions-leur l'État sans ergoter.
Oui.
Oui. Car avec les femmes comme chef, Athènes connaîtra enfin la paix, le bonheur et la prospérité.
Alors, formidable réquisitoire politique, mais en même temps, description assez précise du rôle des femmes et de la vie contemporaine, la vie quotidienne à Athènes, Raphaël Mels.
Bah, ce qui est vraiment agréable justement pour le lecteur d'aujourd'hui, c'est que... C'est tous ces petits détails, ces petits faits vrais, d'autant plus agréable que c'est une pièce de théâtre et que ça aurait pu n'être que des effets de mise en scène et donc être perdu par définition dans les textes. Or Aristophane dans les bouches des différentes, mais c'est aussi parce que ça fonctionne sur des systèmes de groupe où les gens se lancent la parole, c'est vrai, et dans l'Istrata et là dans l'Assemblée des femmes. Et donc du coup dans les paroles des spectateurs des comédiens on entend réellement ce qu'était la vie quotidienne à Athènes mais ne serait-ce que des histoires d'habillement de repas
des robes,
oui, oui.
Des tissus,
oui, bah, y a sur la laine, puisque là on vient d'entendre qu'elle parlait de la laine et donc dans l'Istrata il y a aussi tout une métaphore qui est filée autour du manteau, c'est-à-dire comme les femmes savent tisser, eh ben il faudra tisser la paix. Donc c'est vrai que tous ces objets, dans l'Istrata, elle parle aussi de leur habillement, de savoir s'il faut qu'elle s'habille comme ci ou comme ça. Et moi, je pense que c'était aussi un problème des traductions antérieures, c'est que ces traductions donnaient un effet un peu de décalage. Par exemple, dans Debidour, il traduit robe, il va mettre un kimono, parce que dans les années 60, on mettait des kimonos, mais aujourd'hui, un kimono, ça paraît complètement incongru. Et c'est vrai que dans la traduction, on a essayé justement de rendre ce quotidien mais totalement banal, et puis se dire, bah voilà, c'est des chaussures, des habits, c'était aussi ça, quoi. C'était leur vie exactement comme maintenant, sauf que c'est articulé à des positions politiques. Et là comme on vient l'entendre, cette idée qu'elles savent gérer le quotidien, ben c'est aussi donc qu'elles savent gérer les affaires du pays.
Alors, ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, c'est la fonction sociale de ces comédies, parce que j'aimerais bien que vous reveniez un instant sur la naissance des comédies en Grèce au 5e siècle.
Bah, à l'origine, en fait, les comédies, le théâtre en général, les tragédies aussi, se jouent pendant des fêtes religieuses païennes. Donc c'est vraiment dans le cadre de fêtes très débridées, quoi. Puis c'est des fêtes en l'honneur. Le dieu de la comédie, c'est Dionysos, donc le dieu des orgies, du vin, de la fête, quoi. Et donc c'est pendant plusieurs journées d'affilée qu'il y a des grandes fêtes dans les rues avec de la musique, etc. Et au sein de, c'est dans ce cadre-là, au printemps, normalement, que se jouent les comédies. Il y a un grand public, il y a des prix qui sont décernés. On sait que Aristophane a été souvent récompensé.
Mais parfois pas récompensé. D'ailleurs, il s'en plaint.
Oui,
les Nuées, par exemple,
oui,
qui attaquent Socrate, n'ont pas été récompensés.
Oui, c'est vrai qu'on a les ordres et tout. Bon, il y a beaucoup de pièces perdues. On n'a pas d'autres pièces d'auteurs de comédie. Donc, on n'a pas trop de comparaisons.
Voilà, c'est qu'Aristophane est finalement le seul comique grec, enfin, comique dramaturge comique grec.
Qui
sera
venu jusqu'à
grec,
nous, voilà. Pour témoigner de la comédie à cette époque.
Mais c'est vrai qu'il faut insister sur le fait que c'est pas des représentations théâtrales au sens figé du terme. C'est-à-dire quoi? C'est après un banquet. Donc c'est pas du tout le même rapport au théâtre que celui qu'on a maintenant.
Rapport culturel au théâtre, c'est un rapport festif et qui rassemble la communauté entière, parce que c'est
les femmes aussi.
Alors, on ne sait pas. Il y a débat.
Un vieux débat que personne n'a tranché.
En tout cas, les femmes ne sont pas sur scène. Hein.
Ah non, elles ne sont pas sur scène. Non. Oui, donc par exemple, oui, dans les Thesmophories, donc où les femmes font le procès d'Euripide, donc Aristophane se met du côté des femmes et leur fait dire, ah oui, quand nos maris rentrent du théâtre, qu'ils ont vu une pièce d'Euripide, ils vont voir s'il y a un amant caché dans la maison parce que donc Euripide est misogyne, il y en a marre qu'ils nous traitent comme ça. Dès que les maris vont au théâtre, donc ça sous-entend que en effet elle n'y serait pas.
Mais alors ces concours qui ont lieu deux fois par an, je crois, hein, c'est ça, pendant les fêtes dionysiaques, il y a des tragédies et des comédies qui sont jouées presque simultanément, enfin en tout cas presque dans la même journée, je crois.
Et c'est assez intéressant justement le rapport d'Aristophane à la tragédie, puisque lui fait des pièces très drôles mais parodie énormément le style tragique. C'est quelque chose qui l'amuse beaucoup et où aussi on voit son côté nostalgique. Il y a une pièce très très marrante qui s'appelle Les Grenouilles, où le dieu du théâtre, donc Dionysos, va aux enfers pour rechercher Euripide, qui est mort, parce que il en a marre. En gros, c'est comme les débats littéraires d'aujourd'hui, il en a marre qu'il n'y ait plus de bons écrivains de tragédie. Donc il va aux enfers, il veut ramener Euripide sur terre pour écrire à nouveau des bonnes choses. Et là, il y a Eschyle qui arrive, qui dit non, mais c'est pas Euripide qui sait écrire des tragédies, c'est moi. Et donc il va y avoir un débat entre les deux, auquel Dionysos assiste un peu médusé, pour savoir lequel écrit le mieux. Et donc chacun commence, et c'est vraiment extrêmement drôle et très très comparable à ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est vraiment de la critique littéraire, mais satirique, donc très drôle, parce que Eschyle cite un de ses vers, mais ça dure des pages et des pages sur toute sa pièce, et Euripide le reprend, lui dit, mais enfin, là, tu te répètes, tu dis deux fois la même chose, regarde, et Euripide, à son tour, défend ses vers, qui sont ridiculisés par Eschyle, et donc, Eschyle remonte.
Voilà, parce que finalement, c'est Eschyle qui remonte, Eschyle qui choisit, c'est pas Euripide. Oui. Parce qu'encore une fois, et c'est là où on voit le côté un petit peu réactionnaire, hein, d'Aristophane, c'est ce qui
reprend. Vous avez dit que vous n'êtes pas réactionnaire, mais c'est pas notre style. Nous, on l'aime bien.
Mais on peut aimer les réactionnaires.
Oui.
Non, parce que, encore une fois, Euripide, ce qui reproche Aristophane à Euripide, c'est le côté un peu moderne, c'est d'avoir un peu bouleversé les règles de la tragédie, c'est de se couper les cheveux en quatre.
C'est l'image, encore une fois, enfin, c'est ce qu'on en a retenu, mais après, est-ce qu'il en aurait tant parlé s'il aimait si peu que ça? Il le compare quand même à Eschyle dans cette pièce. Alors oui, il fait remonter Eschyle, mais je pense pas non plus que ça soit
pas concluant, à votre avis, Raphaël Metz.
Si ça se trouve, les
33 pièces qui nous manquent disaient exactement le contraire, donc on va pas. Non, c'est vrai qu'il faut.
Il faut modérer. C'est vrai que l'image, c'est un peu facile, l'image contre Euripide et misogyne. C'est vrai que sur la misogynie, c'est tellement évident que c'est le contraire. Par exemple, c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a des passages très grossiers sur les femmes, mais finalement, les hommes ont une part beaucoup, beaucoup moins glorieuse, quoi, dans ces pièces. Et il aurait pas donné le beau rôle à des femmes dans l'Assemblée des femmes et dans Lysistrata pour quand même instaurer la paix, ce qui était son rêve le plus cher, s'il avait voulu être misogyne. Alors c'est pas parce qu'il y a trois blagues de cul d'un côté que remet en question le fait. Dans l'Assemblée des femmes, faut bien se rendre compte, elle instaure le communisme, c'est pas ce qui est quand même une idée assez moderne, très marrante, où elle décrète que tout va être
tout
va être en commun, elle comprise.
Voilà, j'aimerais encore vous faire dans cet extrait où se mêle effectivement l'utopie politique et le côté complètement dérisoire et puis carrément moqueur de tout ça. Alors, troisième extrait, c'est encore une fois l'Assemblée des femmes.
Bien, écoutez donc, hommes, sans interrompre, ce que nous autres femmes nous avons résolu. Et d'abord, qu'il faut mettre tous les biens à la masse. Car il est injuste que les uns soient riches et les autres misérables. Il est injuste que les uns possèdent de vastes domaines et d'autres même pas assez de terre pour se faire enterrer. C'est pourquoi nous mettons tout en commun.
Mettre tout en commun, chimère.
Et celui qui ne possède pas de terre, mais de l'argent et de l'or.
Eh bien, il les portera à la masse.
Chimère.
Et s'il ne les apporte pas?
C'est un vol.
C'est d'ailleurs bien ainsi qu'il les a acquis.
Mais même s'il ne les verse pas à la masse, il n'en pourra rien faire.
Oh, chimère.
Pourquoi cela?
Oui, parce que pourquoi cela?
Mais parce qu'on ne pourra plus rien vendre ni acheter. Tout appartiendra à tous. Et c'est nous qui nourrirons la cité.
Chimère.
Alors, tout est commun à tous.
Oui.
Et Les femmes?
Sostraté. Attends, nous allons le mener en bateau. Eh bien, les femmes aussi seront communes à tous.
Tu dis?
Je dis, Crémès, que les femmes aussi seront communes à tous.
Oui, mais et comment payer sans argent?
Oh, homme stupide, mais vous n'avez pas à payer. Vous les aurez gratis.
Tu dis?
Gratis.
Mais tous iront à la plus belle, et les vieilles et les laides resteront sur le tapis.
Mais non, car celui qui désire la plus jeune devra d'abord satisfaire la plus vieille.
Ah, je savais bien qu'il n'y aurait que... quelque chose. C'était trop beau.
Mais et les hommes?
Ah, oui,
les femmes iront vers les plus beaux et nous resterons sur le tapis.
Ah, pardon, mon cher, tu resteras sur le tapis.
Mais pas du tout, car la femme qui voudra l'homme le plus beau devra d'abord satisfaire le plus laid. Et le plus vieux.
Je l'ai toujours dit, moi. Il y a beaucoup de bon sens dans ce projet.
Et tout cela est bel et bon, par Zeus, mais s'il y a un procès, comment le paiera-t-on?
Il n'y aura pas de procès.
Comment cela? Suppose qu'un débiteur nie sa dette.
Mais qui lui aura prêté puisque tout est commun?
Et les voleurs?
Mais comment voler ce qu'on possède?
Ah, si la nuit on me détrousse et on m'enlève mon manteau.
Eh bien, tu en prendras un autre au fond commun.
Et les enfants?
Ah, au lieu d'aimer seulement les siens, on les chérira tous.
Alors là, on voit bien comment se mêle d'un côté une utopie politique qui alors est presque révolutionnaire, une espèce de communautarisme à l'extrême, tout est en commun, les biens, les femmes, etc. Et en même temps, alors ça dérive si on peut dire, hein, vers la raillerie, vers, alors pas l'obscénité, hein, puis là en plus on est dans une adaptation qui est un petit peu vieille, enfin vieillie en tout cas. Et alors l'auteur auquel on compare régulièrement Aristophane, hein, ça, c'est pratiquement dans toutes les préfaces, et puis même vous-même, vous en parlez un peu, je crois, c'est Rabelais. Parce que encore une fois, on est dans l'indécidable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait jamais finalement ce que défend Aristophane, ce qu'il raille Raphaël Mels.
Bah, on peut dire quelques banalités, n'hésitons pas, mais c'est vrai que le rire, c'est quand même la meilleure façon de à la fois obliger les gens à réfléchir et en même temps ne pas prendre parti et ne pas obliger le spectateur à décider quelque chose. Donc c'est vrai que ça soit dans l'obscénité, mais pas simplement, parce que c'est vrai que c'est toujours pareil, on a toujours tendance à ramener Aristophane à l'obscénité, mais que ça soit drôle, c'est certain, mais pas simplement par cette forme d'humour là qui a trait à la sexualité, aux hommes, aux femmes. Non, c'est un écrivain qui est très drôle, mais aussi parce qu'il est très fin. Et par exemple, pour tout vous dire, on a décidé qu'après la traduction de Lysistrata, on traduirait Les Oiseaux.
Ah, vous lancez carrément la traduction?
Non, on va pas faire les œuvres complètes parce que ça serait un peu beaucoup. Mais c'est vrai que disons que en fait, donc chez Arléa, qui est une collection où ils traduisent comme ça les textes, ils nous ont demandé si on voulait en refaire une autre derrière parce que personne n'avait retraduit, disons, Aristophane chez eux. Et donc nous on a demandé à faire Les Oiseaux parce que Les Oiseaux c'est une pièce qui travaille beaucoup plus encore sur le matériau de la langue, notamment parce que donc en gros l'histoire c'est que le peuple des oiseaux va remplacer les dieux et donc il y a des personnages d'oiseaux qui sont là et qui parlent, et donc Aristophane a beaucoup travaillé sur le langage des oiseaux lui-même, et c'est assez intéressant à traduire parce que évidemment ils parlent comme des oiseaux grecs et nous il faut qu'on les fasse parler comme des oiseaux français.
Grand renfort d'onomatopée, il faut voir, c'est extrêmement riche sur l'inventivité langagière. En effet, c'est pour ça la comparaison avec Rabelais est très juste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux, même des objets qui parlent dans ces pièces. Il y a vraiment tout.
Et en effet, il y a des langages différents. On a aussi essayé de rendre là dans l'Istrata, puisqu'il y a les Spartiates qui sont qui parlent donc différemment des Athéniens. Et il fallait trouver aussi, donc, parce que chez Aristophane, il parle de façon un petit peu différente. Enfin, là, les mots sont pas exactement les bons. Donc il fallait aussi faire un choix par rapport à ça. Donc les choix des autres traducteurs étaient plus de glisser ça vers un accent du sud, un accent méridional, ce qui nous semblait pas juste par rapport à la traduction. Donc nous on a essayé de de faire des glissements de lettres au sein des mots, pas non plus de la dyslexie, mais juste des petits décalages, exactement comme le faisait Aristophane. Et là encore, c'est vrai que c'est un travail et bon de traduction, mais surtout de sa part qui est intéressant, puisque c'est pas linéaire comme pourrait être juste une pièce. On se dit, ah, les auteurs grecs, bon voilà, il va raconter une histoire. Non, c'est vrai que chaque chose a un sens. C'est vrai aussi que c'est des pièces qui manquent un peu de rigueur, et c'est agréable, et c'est parfois un peu étonnant, puisqu'il y a des intermèdes, puisque tout d'un coup hop, on passe à autre chose. Bon, c'est vrai que c'est pas construit du tout comme dramaturgiquement, disons, bah, c'est pas construit avec une progression jusqu'à une fin qui est attendue. Non, c'est vrai que c'est...
La fin, d'ailleurs, c'est quasiment des sketchs, hein, oui. Parce que, en fait, la plupart des pièces d'Aristophane, des comédies, sont construites à peu près sur le même modèle, hein, c'est ça, c'est-à-dire que ça commence par un personnage comique, a une idée un peu farfelue, et puis après, il essaie de la mettre en œuvre, et il se heurte à des obstacles, et puis finalement, l'idée triomphe, mais ensuite, c'est une sorte de sketch, de série de sketchs, hein, c'est ça,
où, oui, c'est le mot farfelu convient bien, quoi. C'est vraiment ça. c'est des pièces farfelues, et où pour revenir à la comparaison sur Rabelais et à la notion du rire, c'est vrai que c'est peut-être le propre des grands auteurs, mais il n'y a pas de thèse. Aristophane a tout sauf une thèse établie.
Ouais, c'est ça qui finalement rend la lecture d'Aristophane en même temps très drôle et en même temps indécidable. D'entendre, c'est une musique composée par Maurice Jarre, et c'était pour La Paix, une des pièces d'Aristophane, qui était mise en scène au TNP, hein, c'était en 1961, avec une adaptation de Jean Villard. Je redis adaptation parce que finalement, toutes les mises en scène d'Aristophane ne sont jamais des transcriptions exactes, enfin, c'est toujours des adaptations, hein, Robert Merle, Jean Villard. Alors, on s'est demandé, nous, ce qui se passait à Rome. Alors, Véronique Varallo, vous êtes allée voir Florence Dupont, hein, pour voir comment le théâtre romain, ce qu'il héritait du théâtre grec, Véronique Varallo.
Oui, nous l'avons rencontrée. Et donc, Florence Dupont est spécialiste de la littérature grecque et latine. Et elle est l'auteur du livre « L'acteur roi » qui est réédité actuellement aux éditions Realia, les belles lettres. Et effectivement, on a été assez étonnés, car on pensait que le peuple romain était occupé uniquement par les jeux du cirque. Et on a découvert, non sans étonnement, qu'il allait au théâtre beaucoup plus souvent dès la République que les Grecs.
Presque 10 fois plus, hein, c'est ça?
Presque 10 fois plus, au point que saint Augustin, à la fin de l'Empire, définira le Romain comme un spectateur, pour ainsi dire, drogué de théâtre.
Alors vous êtes allé rencontrer Florence Dupont, vous, Véronique Varallo, et aussi avec Catherine Pétillon.
Ce qu'il y a de commun, c'est que dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'un théâtre rituel, c'est-à-dire que le spectacle est offert à la fois aux hommes et aux dieux, mais évidemment, la grande différence, c'est que c'est pas le même rituel. En Grèce, donc, tout le monde sait que le dieu du théâtre, c'est Dionysos, alors que à Rome, le dieu du théâtre, c'est Jupiter. Et que le rituel dans lequel s'inscrivent les représentations théâtrales, tragico-comiques, c'est un rituel qui s'appelle les jeux, ludi, et donc qui peuvent être offerts à différents dieux.
Dans le théâtre romain, la tragédie, par exemple, était beaucoup plus basée sur le chant, sur la danse. Le théâtre grec était beaucoup plus, c'était beaucoup plus classique, c'était beaucoup plus basé sur le texte.
Oui, parce que à la différence du théâtre grec, le théâtre romain ne peut pas être lu comme un théâtre politique. Ce n'est pas du tout une prise de position sur un nombre d'idées comme on trouve dans le théâtre grec, sur la justice, le pouvoir, etc. Il s'agit de spectacles qui ressembleraient, oui, plutôt à l'opéra ou à des oratorios, et en particulier parce que il s'agit de créer un consensus esthétique, et il faut que tout le peuple qui est présent dans son entier avec les dieux soit content et ait les mêmes plaisirs. Donc en fait, le spectacle est moins axé sur une signification que sur une musique, un jeu, un plaisir du spectacle.
Et le peuple romain aime rire. Donc, apparemment, à la fin des spectacles, souvent, il y a une grosse blague ou qui, ne, dans le théâtre grec, n'existe pas vraiment.
Oui, est-ce que c'est parce que les Romains aimeraient plus rire que les Grecs? Bon, je pense que les Grecs aimaient rire aussi. Il s'agit, enfin, c'est justifié par les Romains comme un devoir rituel. En effet, à la fin d'une tragédie, les spectateurs romains sont en proie à des émotions toutes puissantes, puisque la tragédie est aussi fondée sur l'émotion. Et donc, les émotions étant si fortes que, pour revenir dans la vie hors du théâtre, pour revenir à la vie ordinaire, les spectateurs auraient besoin de rétablir leur équilibre. Et donc, les courtes farces qui suivent la tragédie auraient cette fonction-là. Donc, le rire leur rendrait une vision moins chaotique du monde. Ils se retrouveraient grâce au rire. Et c'est donc la fonction de ces courtes farces. Ce n'est donc pas une évolution, puisqu'il s'agit de deux cultures différentes. Le théâtre grec a continué sa façon d'exister, alors que à Rome a été introduit en 240 des tragédies grecques et des comédies grecques, puisque les Romains considéraient qu'ils allaient voir non pas des tragédies et des comédies romaines, mais des tragédies grecques et des comédies grecques. Donc en fait, c'est plus des échanges culturels qu'une évolution et une continuité.
J'aimerais aussi que vous nous parliez des acteurs, puisqu'apparemment, lorsqu'ils sont sortis de leur rôle, ils sont considérés comme infâmes et comme ils sont très mal considérés dans la société romaine.
Pour être acteur, acteur et efficace en tant qu'acteur, il est indispensable qu'ils soient infâmes, parce qu'en fait, toute leur formation, toute leur éducation en a fait des gens, des hommes radicalement différents et qui n'ont aucune des vertus nécessaires à être un citoyen. Donc en fait, ça ne peut pas être l'objet d'un jugement moral aujourd'hui, car ça n'est pas possible autrement. Hein. C'est comme si on demandait si on interdisait de course à pied les gens qui n'ont pas de jambes. Enfin, je veux dire, l'infamie des acteurs est un fait. Ça n'est pas, c'est enregistré par le droit, mais c'est un fait. Ils ne sont pas comme les autres. En fait, il faut comprendre que la société romaine était une société entièrement hiérarchisée et que la position de l'acteur est celui de... Il définit une marge par rapport à un centre qui est représenté, si vous voulez, par cet idéal aristocratique qu'est l'acteur. Mais en fait, pour bien comprendre les choses, il faudrait que je vous explique que le statut de la voix et du corps... Et en fait, c'est un système d'inversion entre la fonction de la voix et la fonction du corps. Quelqu'un qui voudrait comprendre ça devrait retraverser toute la civilisation romaine. Bon, donc en un mot, à la fois l'acteur est indispensable, hein, et en même temps exclu.
Est-ce que vous pourriez nous parler de Roscius?
Roscius est effectivement l'acteur romain le mieux connu. Disons le seul dont la biographie soit connue, c'est un acteur comique et qui réalise bien cette dimension infâme de sa vie dont vous parliez précédemment. En effet, alors que c'était une véritable star des scènes, il était dans la vie sociale, il vivait cette infamie par le fait qu'il ne pouvait avoir aucune amitié, aucune relation sociale honorable, et qu'en fait, son statut était celui d'un homme prostitué. Ce qui permet par ailleurs aussi d'avoir des relations dans les milieux les plus aristocratiques, mais évidemment pas à égalité.
Et les femmes dans la tragédie romaine?
Alors, il n'y a pas d'actrice à Rome. Seuls les hommes sont acteurs, sauf dans un genre mineur qui est le mime. Et bon, comme dans la tragédie grecque, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnages du théâtre ne représentent pas les personnages de la réalité. Ce sont des fictions, et d'ailleurs en tant que tels, ils ont beaucoup plus d'impact sur l'imaginaire des spectateurs que s'ils représentaient des hommes ordinaires. Et en particulier, en ce qui concerne les femmes, ce sont des figures tout à fait extraordinaires, soit Médée, Phèdre, ou d'autres encore. Hein. On a des figures de femmes, mais qui en fait ne renvoient à aucune réalité romaine. Je veux dire, les femmes romaines, bon, même si elles ont avoir de la grandeur, ne sont jamais perçues comme ces héroïnes qui sont, bon, excessives et monstrueuses.
Pourquoi il n'y a pas d'actrice?
Parce que être acteur suppose une maîtrise totale de son corps et un corps qui peut être aussi bien féminin que masculin. Or, les femmes n'entrent pas par leur formation dans cet apprentissage de la maîtrise du corps. Il n'y a pas de possibilité pour elles d'être acteurs au sens où un homme peut l'être. Elles n'ont pas les potentialités d'un homme.
Et souvent les acteurs jouent avec des masques.
Alors, en ce qui concerne la tragédie, c'est toujours avec des masques. En ce qui concerne la comédie, c'est discuter, ça continue à discuter, on prend position. Moi, j'ai dit que sans doute il n'en avait pas, mais je pourrais pas jurer que j'ai raison. En tout cas, une chose est certaine, ce qui revient au même, ils n'ont pas un visage, ils n'ont pas leur visage, ils n'ont même pas des visages qui ont une apparence humaine. Ils ont de toute façon extrêmement maquillés, ils ont des visages excessifs, grimaçants pour les acteurs comiques. Et en ce qui concerne les acteurs tragiques, donc ils ont des masques, et qui sont des masques qui sont sans individualité. C'est-à-dire que ils ont uniquement une expression et qui sera toujours la même. Tout le temps de la tragédie. De toute façon, ils n'ont pas des visages humains.
Et est-ce que le public participe?
Ce qu'on peut appeler participer, c'est-à-dire qu'en fait, le spectacle de la tragédie romaine est un partage d'émotions toutes puissantes. En cela, le public participe, c'est-à-dire que il doit être pris par les passions monstrueuses qui sont réalisées sur scène, et c'est sa façon de participer, sans aucune instance. Et si le spectacle laisse froid, alors c'est raté, et c'est d'autant plus grave que les dieux qui sont aussi présents restent froids comme les spectateurs, et sont là, il faut tout recommencer. L'échec d'un spectacle impose la réitération du rituel.
Les Romains allaient-ils au théâtre plus que les Athéniens?
Beaucoup plus souvent, puisque bon, Athènes, il y a donc les fêtes des Grands Dionysies, il y a peut-être deux fois par an pour aller au théâtre, tandis que à Rome, il s'agit donc, comme je vous le disais tout à l'heure, du rituel des jeux. Il y a des jeux pour un certain nombre de dieux, et donc ils y vont souvent, parce que pour chaque fête des jeux, il y a un ou deux ou trois, parfois trois jours de spectacle. Et on peut dire que à la fin de la République, il y a donc en gros une cinquantaine de jeux par an. Et avec donc des spectacles du cirque, mais aussi des spectacles du théâtre. Et donc, sur l'Empire, ça va se multiplier.
Pour en savoir un peu plus sur le théâtre à Rome, vous pouvez lire donc L'Acteur Roi, le théâtre dans la Rome antique. C'est une réédition d'un livre qui était paru en 1985, je crois, la première fois, donc de Florence Dupont. Et la réédition paraît aux belles lettres en ce moment même. C'est le 23 janvier, je crois, que est parue cette réédition. Alors, comme toutes les semaines,